François Corbin, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
On vous joint du côté de Sherbrooke, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Vous êtes médecin biochimiste.
Oui.
Au centre de recherche du CHU, voilà. Vous êtes médecin biochimiste et chercheur clinicien à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et directeur de cette première clinique de référence sur le syndrome du X fragile. On est là pour parler, pour démystifier ce qu'est le X fragile. Ça touche davantage les garçons, François Corbin. Pourquoi donc?
Bien, en fait, d'abord, au point de vue de la fréquence, c'est plus fréquent chez les garçons. Parce que en fait, ils sont atteints plus sévèrement que les filles. On parle d'une déficience intellectuelle là, de modérée à sévère, alors que chez les filles, la déficience intellectuelle est moins importante. Pourquoi? Parce que c'est lié au chromosome X. Donc, les hommes ont un seul chromosome X, alors que les femmes ont deux chromosomes X. Alors, le syndrome du X fragile, c'est dû à l'absence d'une protéine due à une mutation dans le chromosome X, ce qui fait que la majorité des garçons, comme ils ont juste un chromosome X, ils ne produiront pas du tout de protéines. Mm-hmm. Alors que chez les femmes, comme ils ont deux chromosomes X, même s'ils ont le syndrome du X fragile, l'autre chromosome peut produire de la protéine. Et dans ce cas-là, en fait, elles seront moins affectées. Mm-hmm. Et dans les faits, parmi ces filles X fragiles, il y en a en fait qu'on ne détecte pas de déficience intellectuelle. Donc, on peut penser que dans certaines familles qui n'ont pas de garçons X fragiles, ben on ne détectera pas non plus ces femmes qui auront le syndrome d'X fragile. Mm-hmm. Parce que de point de vue phénotypique, là, de point de vue de l'apparence, c'est pas évident un garçon qui a l'X fragile. C'est pas comme la trisomie 21 ou le syndrome de Down où le faciès est un petit peu plus particulier.
Mm-hmm. François Corbin, lorsqu'un papa comme Frédéric, une maman comme Geneviève, cogne chez vous en tant que chercheur, en tant que scientifique, pour les aider à aller plus loin dans la recherche, est-ce qu'on a envie de sauter dans le bateau? Est-ce que ça nous fait peur? Comment on réagit à ce genre d'appel-là?
Bien, je vous dirais qu'ici, à la clinique, j'en vois de tous les âges, de 18 mois à 52 ans. Parce que le X fragile n'est pas une maladie mortelle. Mm-hmm. C'est une maladie neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'il progresse, mais à un rythme beaucoup plus lent que les enfants typiques. Et au-delà de la déficience intellectuelle aussi, il y a des problèmes de comportement qui peuvent s'installer. Donc, dans l'aspect longitudinal de la vie de ces participants-là, il y a des endroits charnières, comme par exemple l'entrée à l'école, toute cette période-là qui peut être plus difficile. Mm-hmm. Et surtout, à cet âge-là, il y a l'aspect comportemental qui peut arriver. Et il y a l'aspect aussi adolescence, aussi avec la... Évidemment, eux autres aussi ont des montées hormonales qui peut faire en sorte que c'est aussi plus difficile. Et il y a l'après 21 ans qui est la vie adulte. Ouais. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire plus tard dans la vie comme activité? Parce qu'en général, l'école pour eux se termine à 21 mm-hmm. ans.
Il y a moins de services pour toutes les familles, en fait, qui ont des enfants en situation de handicap après 21 ans. Frédéric et Geneviève, Arthur à l'adolescence, est-ce que vous y pensez?
On y pense tous les jours.
C'est sûr qu'on doit y aller au fur et à mesure. Ils sont pas toutes, ils n'ont pas toutes les mêmes difficultés. En général, là, ça mm-hmm. finit par être plus facile. C'est sûr qu'il y a un soubresaut qui peut se passer à l'adolescence. Mais écoutez, on doit voir au fil du temps, mais on voit que quand il y a une maturité qui approche là, au début de l'âge adulte, là, vers 19-20 ans, on voit des choses qui sont beaucoup plus facilitantes là, avec le temps. Mais c'est pas un continuum toujours plus difficile. Là. Il y a des périodes aussi qui sont plus difficiles que d'autres aussi.
François Corbin, comment on traite en ce moment l'X fragile?
Bien, je vous dirais qu'actuellement, on n'a pas de traitement magique actuellement. Dans les faits, c'est une maladie qu'on appelle neurodéveloppementale, avec des problématiques, des fois des problématiques anxieuses. Il y a beaucoup de cas d'autisme. Donc, les traitements sont plus du côté des symptômes. Donc, on va viser l'anxiété, on va viser les problèmes d'agressivité, des choses comme ça. Alors que dans les faits, on n'attaque pas vraiment le problème causal. Puis l'efficacité des traitements classiques est vraiment très, très, très limitée. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que... Parce que en fait, c'est pas une maladie psychiatrique, là. C'est ça que, oui. que j'essaie de vous expliquer. Oui. Donc, aux États-Unis, un adolescent moyen prend 3 médicaments, alors qu'un adolescent moyen ici, je vous dirais qu'il en prend 1 ou 2 maximum. Et puis, quand je parle aux cliniciens qui sont aux États-Unis, on ne peut pas dire que notre clientèle, elle est plus malade que la leur, OK? Oui. Ça veut dire que on n'a pas, comment je pourrais dire ça, avantage nécessairement à trop médicamenter oui. avec les médicaments classiques, mm-hmm. d'où l'objectif de développer vraiment des médicaments qui vont adresser directement à l'œx fragile. Oui.
J'ai envie de m'intéresser pour les minutes qui nous restent, François Corbin, à les prochaines recherches. Vous visez, avec Frédéric, avec Geneviève, une cure que l'on souhaiterait totale, qui sera peut-être partielle pour le moment. En quoi consistent les recherches sur le X fragile en ce moment?
Bien, je vous dirais que le X fragile est probablement le syndrome dont la cause, en fait, de déficience intellectuelle puis d'autisme est la plus connue et la plus simple. C'est-à-dire que c'est l'absence d'une protéine. Mm-hmm. Donc, la communauté à la fois de l'autisme et la communauté de déficience intellectuelle regarde avec très attention ce qui se passe dans le domaine. L'avantage de la recherche qu'on a faite depuis toujours, depuis 1991, on connaît la cause de la maladie, qui est en fait l'absence d'une protéine, et donc on a développé des modèles animaux sans la protéine pour voir quels étaient les problèmes qu'on pouvait voir. Mm-hmm. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été développées pour mieux comprendre la souris puis développer des traitements. Et donc, il y a certains de ces traitements qui sont avérés, en fait, spectaculaires chez la mm-hmm. souris. Et c'est ce qui a intéressé, en fait, des compagnies pharmaceutiques à mettre sur place des essais cliniques chez des humains. Et puis, ces essais cliniques-là, c'est des essais cliniques multicentriques avec des grosses populations. Mais la façon dont on évaluait le traitement, c'est par des questionnaires. Okay. Et on s'est rendu compte assez rapidement que juste le fait de participer à des recherches comme mm-hmm. ça avait des effets importants sur l'amélioration. Dans le sens que, vous savez, le fait de participer à ces études-là, il y a un sentiment de fierté.
De prise en charge aussi. Un sentiment de prise en charge.
Oui, effectivement. Puis c'est sûr que pendant l'étude clinique, on les voit de façon beaucoup plus fréquente. On les voit aux 4 semaines ou 8 ouais. semaines, ce qui est vraiment différent. Donc, il y a une alliance thérapeutique, il y a des liens qui se font entre le participant et l'équipe. Oui. Et en général, les expériences qu'on a au point de vue des essais cliniques sont toujours positives dans ce contexte-là. Quand on fait des études placebo contrôlées, là, on est capable de vraiment mesurer l'effet placebo. Quand on fait des essais où tout le monde prend le médicament, ça devient plus difficile de différencier. Mm-hmm. Toujours est-il que, donc c'est positif de participer à la recherche, c'est ce que je veux dire. Et la dernière chose qu'on veut, c'est créer des rendre malades, là, parce qu'ils ne sont
bien sûr.
Pas des gens malades, ils ont une condition... je les appelle pas des patients ou des malades. C'est des gens qui ont une condition particulière. Et puis, donc, on fait vraiment attention à ces principes-là, que la participation de la recherche, ce soit quelque chose de vraiment bénéfique pour
et de gratifiant. Arthur ne peut pas participer à ces recherches-là. Il est trop petit, je pense. C'est à partir de quel âge?
Bien, effectivement, il y a beaucoup... dans l'étude actuelle qu'on a, on commence à 8 ans. Okay. Les études actuelles que nous, on fait, c'est évidemment les études des compagnies pharmaceutiques. On n'a pas accès à ces médicaments-là. C'est eux autres qui les ont développés. Ils ont les brevets. Puis après les échecs des essais cliniques, parce que comme ils comparaient ils essayaient de voir un peu les études chez la souris, mais avec des questionnaires, donc c'était pas nécessairement la meilleure façon. on s'est dit, il faut avoir des façons objectives de pouvoir mesurer l'efficacité. Est-ce qu'on est capable biologiquement de montrer qu'on fait un pas dans la bonne direction? Donc, c'est ça qui est important.
Et je pense que vous en faites, François Corbin, on doit se laisser, on n'a plus de temps. FragileQuébec.org, il y a une multitude d'informations là-dessus. Rapidement, Frédéric?
C'est XFragileQuébec.
Ah. X-Fragile, bien sûr, je l'avais, xfragilequebec.org. Merci, Frédéric. Merci, Dr. François Corbin, médecin biochimiste, chercheur clinicien et surtout directeur de la première clinique de référence sur le syndrome du X-Fragile pour ces informations. Je pense qu'on aurait pu vous garder pour l'heure. Vous reviendrez, François Corbin.
Ça me fera plaisir. N'hésitez pas à m'inviter.
Au revoir.
Merci.
Parfait, au revoir.